Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est un grand jour, c'est un anniversaire. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le mardi 7 février 1995, Jean Mouette, ici présent, toujours présent, organisait la toute première conférence grand public de l'IAP avec Serge Koutchmi qui parlait de l'éclipse totale de soleil de 1994, donc l'année d'avant, sur les ondes chiliennes. Donc voilà, on fera un petit événement. Oui, on peut l'applaudir. Merci, on peut l'applaudir et on fera un petit événement quand l'amphithéâtre sera de nouveau disponible, c'est-à-dire à l'automne. Ça fera 30 ans et quelques mois, mais on peut pas faire mieux. Voilà. À propos d'amphithéâtre, j'ai une nouvelle encore plus difficile, c'est que le mois prochain et peut-être le suivant, cette salle sera réservée à 25 personnes parce que la sortie de secours ici va être condamnée provisoirement à cause des travaux dans l'amphithéâtre où il y a de l'amiante et enfin bon, c'est compliqué. Donc à partir du mois prochain, en tout cas le mois prochain, la conférence sera limitée à 25 personnes. Voilà, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes en ce moment même qui nous suivent sur YouTube. Donc, ceux qui n'arriveront pas à s'inscrire pourront toujours aller sur YouTube. Alors, je vous annonce maintenant les prochaines conférences. Donc, le 4 mars, nous aurons Laurent Lamy de l'Observatoire de Paris et de l'Université Aix-Marseille qui va nous parler des aurores et des planètes, voyage dans le monde invisible des magnétosphères. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va entendre aujourd'hui, donc c'est bien, c'est varié. Et puis le 1er avril, pas de poisson, Corentin Cadieux de l'IAP, qui rejoint l'IAP en tant que chercheur permanent le 1er février, donc c'est fait, voilà, il est arrivé à l'IAP. On le connaît bien parce qu'il a fait sa thèse à l'IAP, mais ça fait quelques années qu'il est en postdoc par-ci, par-là. Et là, on est content de le retrouver. Et donc, il va nous donner une conférence qui s'intitule « Comprendre l'émergence des propriétés des galaxies grâce à la simulation numérique ». Voilà. Et maintenant, je vous présente donc l'orateur de ce soir, c'est Patrick Peter. Patrick a fait sa thèse avec Brandon Carter à l'Observatoire de Paris-Meudon. Ensuite, il a travaillé avec Stephen Hawking à Cambridge, rien que ça. Il a été recruté à l'Observatoire de Meudon dans un laboratoire qui, à l'époque, s'appelait le DARC. Et en l'an 2000, il a fondé le laboratoire Greco, en venant où une grande partie du DARC, est venue à l'IAP. Et donc, avec Nathalie de Ruel, ils ont fondé le Greco, qui existe toujours, qui est donc un laboratoire à l'intérieur de l'IAP, mais qui a fusionné avec l'IAP, mais qui est quand même une entité de l'IAP, disons. Donc il travaille à la fois en cosmologie théorique et en physique des particules, qui est sa formation initiale. Il a dirigé le Greco pendant un an, jusqu'à la fusion justement avec l'IAP. Et il développe depuis une dizaine d'années des travaux en cosmologie quantique avec le Brésil et avec la Pologne. Donc ni la chaleur ni le froid ne lui font peur. Il a dirigé l'IAP pendant l'année 2024. Avant ça, il a été directeur adjoint plusieurs années. Et il est aussi auteur d'un livre avec Jean-Philippe Usan qui s'appelle « Cosmologie primordiale », qui est édité chez Belin et chez Oxford University Press dans sa version anglaise. Voilà, donc aujourd'hui, il va nous parler de l'univers dans tous ses états quantiques. Merci Patrick.
Merci. Maintenant, j'ai le droit de mettre ma page de titre. Ça va, on entend bien, c'est bien réglé. Bon. Voilà, bon, écoutez, d'abord, je vous remercie d'être venu malgré les difficultés, l'absence d'amphithéâtre et compagnie. J'aurais préféré, évidemment, que ce soit dans l'amphithéâtre. C'est quand même, ça a un peu plus d'allure. En même temps, je ne peux pas vraiment me plaindre parce que c'est moi qui ai signé les papiers pour que les travaux de l'amphithéâtre commencent en début d'année. Donc, voilà, c'est d'une certaine manière, c'est un peu de ma faute. Tant pis pour moi. Voilà, ça c'était le premier point rapide. Maintenant, j'attaque un peu le gras du sujet. Alors effectivement, les sujets ici qu'on fait sont très différents. Comme vous l'avez vu, on va parler de simulation numérique dans 2 mois. On parle On a parlé d'éclipse en 1995, on va parler de planète le mois prochain. Et moi, je parle d'un sujet un peu plus théorique, on va dire. Alors, mon sujet est dans le titre. Donc, je suis désolé, j'ai trouvé ça drôle de faire ça comme ça, comme titre, l'univers dans tous ses états en rajoutant quantique. Bon, je me suis dit que ça ferait aussi venir les gens. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée, d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est fait. Il y a trois points dans ce titre. Il y a d'abord l'univers. Alors, l'univers, comme vous le savez, c'est quand même un petit peu notre spécialité ici. On travaille pas mal là-dessus. Là, je vous montre une imagerie faite par le satellite Planck, ici, qui a mesuré, comme certains le savent peut-être, le rayonnement de fond diffus cosmologique qui nous donne une image de l'univers à ses tout premiers instants, enfin, tout premiers instants, à l'âge d'environ 380 000 ans. Donc voilà le type d'image qu'on obtient, en rappelant un peu comment ça fonctionne, le genre de mesure qu'on peut faire quand on regarde. Vous voyez, nous, on est là dans une galaxie plus ou moins quelconque. Et en fait, ce qu'on observe autour de nous, c'est la surface d'une sphère. Alors, quand on dit la surface, évidemment, il y en a en trois dimensions, des objets qu'on voit, mais nous, ce qu'on voit, c'est une simple image à deux dimensions. Donc, en fait, quand on ramène tout ce qu'on peut mesurer dans l'univers sur une sphère, on ouvre la sphère et ça fait une carte du ciel, comme quand on fait une carte de la planète, sauf que là, c'est vraiment trois dimensions projetées. Et quand on étudie cette carte à diverses longueurs d'onde, eh bien, vous voyez, on voit le fond diffus cosmologique, son dipôle, les différents multipôles qui apparaissent après. On voit apparaître tout un tas de structures qui sont plutôt des choses gênantes, que les astrophysiciens aiment bien, mais que les cosmologistes n'aiment pas. C'est ce qu'on appelle des avant-plans. Alors, on les supprime en regardant diverses longueurs d'onde. Une fois qu'on a fait ça, on nettoie un petit peu. Ça, c'est la galaxie qui gêne beaucoup quand on veut regarder l'univers, quand on veut faire de la cosmologie. Le fait qu'on soit au milieu d'une galaxie, c'est compliqué. Alors, en même temps, on ne ferait pas de cosmologie si on n'était pas au milieu d'une galaxie, parce qu'on ne serait pas là pour faire quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Et à la fin, on obtient ce genre d'image. Ceux qui connaissent un peu l'IAP savent qu'on en a une version très, très agrandie au deuxième étage, là où on prend le café, voilà, qui est absolument magnifique. Et avec tout ça, eh bien, comme je vous ai dit, on arrive à reconstruire toute une histoire de l'univers. Je vais expliciter un tout petit peu après, mais voilà. Ça, l'univers, pour moi, c'est l'histoire de l'univers, c'est-à-dire qu'il commence au Big Bang, si on veut accepter la notion de Big Bang. Commence au Big Bang, on a théoriquement une phase d'inflation, j'y reviendrai, et on a une première lumière qui est cette image-là, donc comme je vous disais, produite 380 000 ans environ après le Big Bang, ce qui, pour fixer les idées, est quasiment instantané, l'univers ayant environ un peu moins de 14 milliards d'années. Entre maintenant, ici, et ce point-là, c'est à peu près 14 milliards d'années, 13,7 si on veut être un petit peu plus précis. Donc vous voyez, il y a quand même toute une histoire qu'on arrive à bien décrire. Ça, c'est le premier mot de mon titre. Le deuxième mot, il va être un peu plus rapide, c'est juste un état, comme je vais parler d'état quantique, c'est juste un état. Alors un état, je vais les définir comme ça, je vais revenir plus tard dessus. Alors je vais mettre un petit peu de mathématiques de ci, de là, c'est pas du tout, alors c'est pas pour frimer, c'est pas non plus pour que vous suiviez les mathématiques, c'est juste à titre d'illustration. Il se trouve que nous avons, dans le cadre quantique, une notion d'état, justement, et j'y reviendrai tout à l'heure, rassurez-vous, et que cette notion d'état prend une forme mathématique finalement relativement simple et qui permet de, il me semble, de bien comprendre de quoi on parle. Voilà. Donc ça, c'est pour l'état. Et puis, le quantique, évidemment, c'est la mécanique quantique. Donc je vais revenir sur cette mécanique quantique. Et évidemment, les états en question, ce sont des états quantiques, d'où le titre. Voilà. Donc là, j'ai à peu près explicité l'objet. Donc là, comme je vais vous parler de cosmologie et de mécanique quantique, eh bien, je vais commencer par autre chose, à savoir la mécanique classique. Et évidemment, pour vous parler de mécanique quantique, il faut d'abord que on résume à peu près l'idée qu'on a quand on parle de mécanique classique. Alors, la mécanique classique, bon, c'est initié, évidemment, vous le savez, Galilée, Copernic, tout ça, et puis surtout les travaux de ce gentleman, Sir Isaac Newton, qui, semble-t-il, n'était pas aussi sympathique qu'il pouvait paraître sur cette image, mais bon. Et alors, l'idée de la mécanique classique, c'est de considérer des objets physiques, je ne sais pas, la paire de lunettes, une boule de billard, n'importe quoi, un objet classique, ou n'importe quoi auquel vous pouviez penser, une particule au sens classique du terme, c'est-à-dire, généralement, on a une idée d'une bille, plus petite, mais une bille, voilà, ou un champ, comme le champ électrique, le champ magnétique, ces choses-là, tout ça, ça se décrit par la mécanique classique, La mécanique classique, en fait, fait un certain nombre de suppositions qui sont loin d'être triviales. Par exemple, quand on va parler d'une particule ou d'une bille, on va calculer sa trajectoire. Donc sa trajectoire, bon, je vais noter ici x de t, ça veut dire les différentes positions que prend la particule à chaque instant t. Voilà, c'est juste ça ce que ça veut dire. Et en fait, on suppose que tous ces objets, particules, champs, n'importe quoi, ont des caractéristiques intrinsèques. Et que ces caractéristiques intrinsèques sont mesurables et qu'on les mesure. Et qu'on sait comment faire. Alors ça a l'air trivial d'une certaine manière, ce que je dis, on a l'impression que je dis de manière compliquée quelque chose de simple, c'est exactement le cas d'ailleurs, mais c'est parce que je vais vouloir faire le contraste après. Alors une fois qu'on a cette trajectoire, pour obtenir cette trajectoire, bon, il faut l'équation d'évolution, ici l'équation de Newton, qui vous dit que quand vous connaissez la masse de la particule et son accélération, eh bien ceci est relié à la force qui agit sur elle. Donc évidemment pour calculer ça, pour ceux qui savent, c'est simplement une équation différentielle qu'on peut résoudre sans grande difficulté, pourvu qu'on connaisse la position initiale, la vitesse initiale de la particule. On met ça là-dedans, on calcule et ça résout à partir du moment où, bien évidemment, il faut que vous connaissiez la loi de force. Alors la loi de force, bah, typiquement comme pour la gravitation, on le sait, une loi de force, c'est la force entre deux particules. C'est proportionnel à la masse de chacune des deux particules et inversement proportionnel au carré de la distance. Et puis la constante de proportionnalité étant précisément la constante de Newton. Et alors un point que je voulais quand même illustrer ici, c'est que même si ceci peut paraître simple, ça peut donner lieu à des mouvements extraordinairement compliqués. La loi ici, c'est un simple pendule dans un champ de gravitation simple, mais qui bouge, un pendule double, pardon, et qui bouge suivant les lois de Newton, simplement le F égale ma, voilà. Et vous résolvez ça, et ça peut vous donner quelque chose d'horriblement complexe. Mais fondamentalement, il n'y a rien de compliqué au niveau de la compréhension. C'est juste calculatoirement difficile, probablement. Mais voilà, comme je vous dis, on a des propriétés intrinsèques, on les calcule et on les mesure et on vérifie et on est content, ça marche très bien. Alors, l'autre versant qui nous intéresse pour la mécanique classique et qui va nous intéresser considérablement pour la cosmologie, c'est la relativité générale. La relativité générale, c'est la théorie de la gravitation proposée par Einstein en 1915. Et c'est celle qui décrit tout l'univers. Évidemment, je vais y revenir, ça va de soi. Toute l'idée, en fait, est relativement simple. Comme toujours, hein, les grandes idées sont très simples, initialement. Après, ça devient un tout petit peu plus compliqué au niveau technique, mais ce n'est pas tellement la question. L'idée, c'est de dire ce que constate Einstein, c'est que quand on est à la surface de la Terre, on ressent la force liée à la gravitation, qui est essentiellement constante. C'est la force G de la gravitation, l'accélération de la pesanteur, comme on dit dans le langage commun. Et Einstein se dit tout simplement, si je suis dans un ascenseur, on sait que ça s'appelle comme ça, si je suis dans un ascenseur, une boîte complètement fermée, au sol, j'ai une bille, je la laisse tomber, voilà, je suis content, je mesure sa trajectoire, je dis, bon ben voilà, je suis à la surface du sol, et je mesure l'accélération de la pesanteur, G qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Mais inversement, si je suis dans ce même ascenseur, mais qu'en réalité je suis dans une fusée qui est accélérée avec une accélération constante de 9,81 mètres par seconde carré, bien, ce qu'Einstein se dit naturellement, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence entre ces deux configurations. Et comme il n'y a pas de différence, eh bien, je ne peux pas dire que je suis dans une fusée accélérée ou à la surface d'une planète. Ce qui veut donc dire que la loi de la gravitation, c'est simplement une accélération. Bon, jusque-là, on pouvait se dire, oui, mais c'est évident, puisque la masse, la loi de force F égale ma, oui. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est que l'accélération, la force de gravitation, en fait, n'existe pas, elle n'est que liée à l'accélération. Mais l'accélération, maintenant, c'est quoi? L'accélération, c'est la distance parcourue, ou la vitesse, l'augmentation de vitesse en un temps donné. Et l'augmentation de vitesse, la vitesse elle-même, c'est une distance parcourue en un temps donné, à peu de choses près. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je parle de distance, de longueur, et de temps. Je suis en train d'introduire, en gros, subrepticement, une géométrie spatio-temporelle. Donc je parle d'espace-temps. Einstein parle maintenant d'espace-temps, puisque l'accélération, la force de gravitation, c'est la même chose que l'accélération. Il en déduit, en fait, une géométrie quadridimensionnelle, donc espace plus temps, hein, il nous dit que la force de gravitation est simplement proportionnelle à la courbure quadridimensionnelle. Donc on a toute cette imagerie qui remplace en fait les lignes droites et les lois de force par des lignes droites, entre guillemets, vous voyez, comme quand on est à la surface de la Terre, la Terre est en courbe, si on va tout droit sur la surface de la Terre sans jamais quitter le bon axe, eh ben on finit par revenir à notre point de départ. Donc ça va, clairement, on n'a pas été en ligne droite, mais on a été sur ce qu'on appelle une géodésique. Bon. Et de la même manière, eh ben voilà, les rayons lumineux sont courbés par le Soleil. C'est toujours cette image. Alors, c'est une image qu'on voit partout. Hein, vous voyez, on va en ligne droite si l'espace est plat, et si l'espace est courbe, eh ben on ne va plus en ligne droite. Alors là, c'est une image pas vraiment correcte. Enfin, ça donne peut-être une image, mais en réalité, l'espace dont on parle, c'est un espace-temps. Donc là, on projette un espace à deux dimensions. Il faudrait projeter un espace à quatre dimensions sur deux. Je vous mets au défi de le faire. Moi, je ne sais pas faire. Je crois que, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire ça comme ça. Mais c'est une représentation, juste. Ça n'est pas visuellement correct. Voilà. À partir du moment où on a une théorie de l'espace et du temps, eh bien, on peut se demander comment l'espace lui-même va évoluer dans le temps. Autrement dit, on peut faire de la cosmologie. On va y venir. Mais avant de faire de la cosmologie, je vais m'attaquer maintenant au deuxième point qui était la mécanique quantique. Vous signifiez d'abord d'où ça vient. Alors ça vient tout naturellement, en fait, des physiciens de la fin du 19e siècle qui font un premier calcul. Enfin, ils regardent un petit peu le rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement de corps noir. Ça vient de l'électromagnétisme maxwellien. Et alors l'idée, c'est très simple. Hein, en fait, voyez-vous, on peut calculer la densité d'énergie dans ce qu'on appelle un four, enfin un corps noir, c'est-à-dire c'est un four qui réfléchit avec des surfaces parfaitement réfléchissantes sur tous les côtés. Et puis vous mesurez la densité d'énergie que vous trouvez en fonction de la fréquence de ce truc-là. Et quand on fait le calcul classique, eh bien vous voyez que, je sais que mon diagramme n'est pas très joli, mais ce n'est pas grave, vous voyez que ça grimpe indéfiniment. Donc plus la fréquence augmente, plus la densité d'énergie augmente. C'est-à-dire que si votre corps noir, votre four, là, a des surfaces parfaitement réfléchissantes à très très haute fréquence, eh bien tout simplement, à peine vous le fabriquez, il explose. Ça, c'est la prédiction de la mécanique classique. Évidemment, n'importe qui est capable de faire l'expérience, voire de l'imaginer, et de réaliser que non, ça n'explose pas. D'ailleurs, ça ne chauffe même pas, il ne se passe essentiellement pas grand-chose. Voilà. Et donc Planck, en 1900, je dis mes souvenirs sont bons, c'est même le 31 décembre 1900, donc il introduit ce qu'on appelle la courbe de Planck, qui est celle-là, dans laquelle il introduit la fameuse constante de Planck qui va transformer la mécanique classique en mécanique quantique. Alors en fait, Planck introduit ça en disant qu'il va mettre une limite sur le nombre de photons qui ont une certaine fréquence, etc. Enfin bref, c'est pas très clair visiblement dans son esprit. D'ailleurs, il le dit lui-même, il ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais ça marche. Donc, à partir de maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, par ailleurs, depuis 1801, donc avec l'expérience de Young, on pense que la lumière est constituée d'ondes. Au début, les premiers travaux, certains travaux, ça remonte même à Newton avec son optique, et puis il y a pas mal de polémiques pour savoir si la lumière est composée d'ondes ou de particules, de corpuscules de lumière, de grains de lumière. Voilà. Donc Young propose l'expérience suivante, enfin on l'a tous fait, hein, dans des interférences, quand on prend un bac d'eau comme ça, imaginez que ceci ce soit de l'eau, et puis une surface et deux trous, eh bien l'eau qui passe au travers des deux trous comme ça va vous produire une figure d'interférence ici. Et donc Young propose tout simplement de faire la même expérience en 1801 avec des photons, excusez-moi pour le vocabulaire, avec de la lumière. Et ce faisant, eh bien d'une certaine manière, il tranche l'expérience, voilà, il obtient des franges d'interférence. Donc la lumière, ma foi, tout simplement, c'est une onde. Il n'y a pas de problème. Et puis vers la fin du siècle, un certain nombre d'idées commencent à apparaître, notamment un truc avec un électroscope, je trouve ça amusant l'idée, c'est deux feuilles d'or, et puis on prend un plateau en zinc ici, et c'est relié évidemment, et quand on charge un peu en frottant, c'est pas très compliqué, hein, on charge un petit peu le plateau ici, les deux feuilles d'or s'écartent. Bon, ok, très bien. Et puis quand on balance de la lumière là-dessus, quand on met de la lumière visible, il ne se passe rien évidemment, et puis quand on augmente la fréquence de la lumière, il y a un moment où les deux feuilles d'or se regroupent. Et en fait, c'est quand on a dépassé le seuil de l'effet photoélectrique. Cet effet photoélectrique sera expliqué par Einstein avec ses quantums de lumière, Lichtquanten, voilà, en allemand dans le texte. Dans son papier de 1905, il dit, ben voilà, si je considère que les photons, que la lumière maintenant est constituée de photons, eh bien ces photons, ils vont taper là sur l'électrode, et puis si la lumière a suffisamment d'énergie, eh bien les photons vont être éjectés, Et ça va conduire à un courant. Et on le voit, tant que le seuil n'est pas atteint, il ne se passe rien, exactement comme ici. Et puis quand le seuil est atteint, le courant commence à passer. Donc Einstein propose ça. D'ailleurs, dès ce moment-là, il fait un calcul qui semble impliquer des ondes et des photons et des particules. Et c'est seulement en 1909 qu'il donnera explicitement l'idée de mélange ondes et corpuscules. Alors Planck, pour son idée originale en 1900, a eu le prix Nobel en 1918, si je me souviens bien, et Einstein, pour ça, l'a eu en 1921, pour cet effet-là. Donc voilà, ça tranche, hein, la lumière, c'est des particules. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on venait de dire le contraire il y a 3 minutes, mais bon, tant pis. Bon, maintenant, à l'inverse, vous avez quelqu'un comme De Broglie, qui, dans les années 20, se dit, si la lumière, il y a un côté onde et un côté particule, on sait que les particules, ce sont des particules, donc peut-être ont-elles aussi un côté onde. Et donc, il propose que les particules soient aussi ondulatoires. Et entre autres, il va y avoir cette expérience. Donc, De Broglie fabrique le côté ondulatoire de la matière. Il aura aussi le prix Nobel, lui, en 1929. Et donc, il propose le même genre d'expérience, mais en envoyant des électrons, ce coup-ci. Les mêmes Franz Jung, on envoie les électrons. Et alors là, ce qui se passe, évidemment, vous ne voyez rien du tout, mais bon, quand vous regardez l'écran qui est projeté ici, eh bien, vous envoyez les électrons un par un. Et vous les voyez arriver, un ici, un là, un là, un là. Donc c'est clairement des particules qui arrivent. Mais quand on attend suffisamment longtemps, on en a plein et on reproduit une figure d'interférence. C'est à peu près la même image. Donc on a une espèce de comportement bizarre. Hein. C'est... suivant que vous regardez les objets, suivant la manière dont vous les regardez, vous voyez, comme avec cette métaphore, vous avez la transformation onde particule, suivant la manière dont on les regarde, vous voyez, un cylindre, si on regarde d'un côté, ça donne un carré, si on regarde de l'autre côté, ça donne un rond. Et voilà, vous voyez, les enfants qui n'arrivent pas à mettre leur jouet, le carré dans le rond, finalement, en mécanique quantique, on peut. Voyez, un enfant quantique pourrait beaucoup plus facilement jouer aux jeux de découverte cognitive pour enfants. Voilà, donc ça, c'est l'idée générale qui sous-tend toutes ces idées-là. Et maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails, notamment en m'inspirant du livre écrit par ce monsieur, qui est donc Paul Dirac, qui lui aussi a eu un prix Nobel en 1933. Il l'a partagé avec Erwin Schrödinger. Je reparlerai de Schrödinger aussi. Et il expose ici la manière dont on comprend toute la mécanique quantique et que celle-ci est basée... je vais finir par y arriver, sur ce qu'il appelle un état. Et normalement, on voit souvent psi, on voit les ondes psi et des choses comme ça, mais dans ce bouquin, c'est xi, c'est pour ça que j'ai pris cette valeur. Bon. Voilà. Alors lui, il explique les choses de manière, comment dirais-je, un peu absconde, mais je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, c'est relativement général. Donc il va dire la chose suivante. En mécanique classique, on considère que les objets ont des propriétés intrinsèques qu'on est capable de mesurer. Mais c'est peut-être un peu abusif comme idée de dire ça. D'où on sort que les propriétés intrinsèques existent? Parce qu'on, vous allez me dire, parce qu'on les voit. Mais peut-être que si on regarde à des échelles microscopiques, ce n'est pas forcément vrai. Donc lui, il va dire, prenons un cas plus simple. On va dire qu'un système physique quelconque, il va y avoir un ensemble d'états possibles très général, quel qu'il soit. Donc c'est un ensemble d'états, donc les configurations, par exemple les positions de toutes les particules dans cette pièce, une configuration, vous voyez, ça peut être par exemple, vous êtes tous assis là comme ça, et puis si tout le monde se décale d'un cran, c'est une autre configuration. Par exemple, on peut considérer que c'est un autre état possible. Voilà, donc il va le décrire juste les états possibles. On va fabriquer l'ensemble des états possibles. Et on va dire le système physique, il est dans un de ces états. C'est juste un état. Il était possible. Et il se trouve que mon système est dans cet état-là. Et il constate que l'évolution de ces états, en fait, on peut la calculer de manière très simple. Il y a un argument extrêmement simple qui consiste à dire, eh bien, si je fais une expérience sur mon système qui est dans cet état, si je fais l'expérience maintenant et ici, ou si je la fais dans 2 siècles à Singapour, ou dans 3 millions d'années sur Alpha du Centaure, j'obtiendrai la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle l'invariance par rapport à la translation dans le temps, l'invariance dans l'espace, etc., etc. Eh bien, connaissant ces invariances-là, alors on peut en déduire l'équation d'évolution. Et puis une fois qu'on a l'équation d'évolution, eh bien, la mécanique quantique vous dit quelles sont les probabilités de mesurer ceci ou cela. Donc on peut fabriquer des mesures. On a un système d'opérateurs qui va nous dire ça comment. Je vais vous expliquer en 2 secondes. de sorte que vous ne comprendriez rien, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et en fait, on est capable de mesurer, c'est-à-dire on est capable de mesurer des probabilités. Et là, vous êtes en train de vous dire, ça ne veut rien dire ce qu'il raconte. Je vous confirme, ça ne veut rien dire, au sens où, mais je vous rappelle, on a supprimé l'idée d'existence objective de propriété intrinsèque. Donc à partir du moment où on n'a plus ça, il faut quand même qu'on puisse dire quelque chose. Ce qu'on peut dire en mécanique quantique, c'est partant d'un système quelconque, dans un état donné, quelle est la probabilité de mesurer ceci ou cela ? C'est en fait, paradoxalement, c'est un énorme retour en arrière. Comme on a supprimé l'hypothèse qu'il existait des propriétés intrinsèques, on revient en arrière avec ça. On ne peut que prédire des mesures qu'on va faire sur les systèmes. Alors, mathématiquement, quand même, hein, voilà, c'est juste histoire de vous distraire, rassurez-vous, il n'est pas question de prendre des notes là-dessus, je ne poserai pas de questions. Pour vous dire ce qu'il en est, un système S quelconque, eh bien, il est décrit par un espace de Hilbert complexe. C'est un espace des états qui s'appelle techniquement un espace de Hilbert complexe. Un état quelconque appartient donc à cet état, à cet espace d'état. Bon, voilà, très bien, on est content. L'évolution est donnée, l'évolution de cet état est donnée par l'équation de Schrödinger, dont je parlais tout à l'heure, qui s'avère avoir un point absolument crucial, à savoir, elle est linéaire et elle obéit donc au principe de superposition. Je vais y revenir dans un instant, rassurez-vous. Ou pas, d'ailleurs, rassurez-vous pas. Ensuite, alors on mesure tout ce qu'on peut mesurer, c'est un ensemble, il y a un ensemble de mesures possibles qu'on puisse faire sur ce système. Alors évidemment, la somme de toutes les mesures possibles est forcément 1, puisque tout ce qu'on mesure, ça a une certaine probabilité. Donc la somme de toutes ces probabilités, ça vaut 1. Bon, techniquement, ça veut dire que toutes les mesures qu'on peut faire, c'est des projecteurs. Bon, bref, aucun intérêt. Et une fois qu'on a, comment on effectue ces mesures, eh bien c'est, oups, pardon, ah, diablerie. Donc, alors ça y est, on veut mettre des choses rigolotes et on se trompe de bouton, c'est dommage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, connaissant cet état et connaissant cet objet mathématique, eh bien, je peux calculer grâce à la règle de Born. Born, lui aussi, a eu un prix Nobel en 1954, si mes souvenirs sont bons. La règle de Born qui vous donne la probabilité d'obtenir le résultat donné. Vous voyez, je suis désolé, je ne vous décris pas vraiment des choses très claires, je le sais. Mais c'est malheureusement, c'est comme ça. J'ai une citation pour dire pourquoi, derrière. Donc voilà, ça, c'est toute la mécanique quantique. Et alors, je vous ai dit qu'il y avait un principe de superposition. Alors, originellement, dans une discussion entre Einstein et Schrödinger, il y a des échanges épistolaires, des lettres dont la qualité scientifique est intéressante, hein, quand même, entre les deux. Et Einstein parle d'un baril de poudre qui explose ou qui n'explose pas. Et Schrödinger va aller encore un cran plus loin, en parlant d'un chat, avec l'expérience que vous connaissez peut-être, hein, c'est l'expérience et l'idée suivante, vous prenez un atome radioactif, si cet atome se désintègre avec un chat, alors l'atome est là, il y a un chat qui est bêtement dans une pauvre boîte, là, enfin un pauvre chat surtout, et cet atome, si l'atome se désintègre, c'est un objet microscopique un atome, hein, donc si l'atome se désintègre, il va envoyer le produit de la désintégration là, vers ce système-là, qui va casser le fil, et le marteau va casser une fiole qui va répandre un poison qui va tuer le chat. Ouais. Rassurez-vous, ça n'est qu'une expérience de pensée, aucun chat n'a été maltraité au cours de ce séminaire. Bon, donc voilà, ça c'est la probabilité que calcule Schrödinger, et Schrödinger se dit, mais le problème c'est qu'un atome qui va se désintégrer, nous, on pense à l'atome, bah, il est là, il se désintègre ou il ne se désintègre pas. Mais quantiquement parlant, il y a le principe de superposition. Donc un atome peut parfaitement être dans un état superposé, c'est-à-dire dans lequel il est désintégré et non désintégré. Mais si vous ne voyez pas ce qui se passe, vous, tant que vous n'avez pas fait de mesure, dans ce cas-là, puisque l'atome est dans un état désintégré et non désintégré en même temps, alors le chat est dans un état vivant et mort. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est comme ça. Vous voyez qu'on est quand même un tout petit peu loin de la mécanique classique, avec ses mouvements rigolos, mais faciles à comprendre. Voilà, on est un petit peu éloigné, et je vais reprendre... Alors le cas le plus simple pour la mécanique quantique, le cas le plus simple, c'est celui d'une particule, hein, notre fameuse bille de tout à l'heure qui maintenant va être une particule élémentaire. Donc ben, on va dire qu'il n'y a pas de trajectoire, on ne sait pas du tout de quoi on parle. On a une particule, cette particule, et ben voilà, c'est juste La position de cette particule est décrite par un opérateur à valeur dans un espace de Hilbert qui agit sur une fonction d'onde qui elle-même décrit la probabilité d'observer telle ou telle localisation. Et que, donc voilà, on a l'équation de Schrödinger qui est ceci, hein, sans intérêt, mais c'est pas grave, qui vous permet de savoir l'évolution dans le temps de la fonction d'onde. Voilà. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Alors là, il me semble à peu près approprié de citer Richard Feynman, lui aussi prix Nobel en 1965 pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique, ou qui vous dit qu'il pense qu'on peut tranquillement affirmer que personne ne comprend la mécanique quantique. À partir du moment où c'est un prix Nobel qui vous le dit, vous pouvez affirmer la même chose sans crainte. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près... c'est tout. La mécanique quantique, c'est que ça. Et par ailleurs, comment vous faites en mécanique quantique? Vous faites un calcul, et puis vous prédisez quelque chose, une observable, hein, quelle qu'elle soit, la position d'une particule, par exemple. Hein, quand je dis une particule, ça peut être à plusieurs endroits à la fois. Tant que vous ne l'avez pas mesurée, vous ne savez pas où elle est. Mais ce n'est pas que vous ne savez pas où elle est, c'est qu'elle n'est nulle part. C'est-à-dire, elle peut être aussi bien ici que là. Et c'est seulement quand vous la mesurez, que, à partir du moment où vous la mesurez ici, elle est ici. Puis après, elle repart. Bon. Et ce que vous faites en général, comme vous faites un calcul, et puis vous calculez la valeur moyenne que vous devriez obtenir, et vous répétez, dans le labo, vous répétez l'expérience autant de fois que vous voulez. Et vous vous dites que, les valeurs moyennes que je vais mesurer dans mon laboratoire, ça va être la même chose que les valeurs moyennes que je calcule par la mécanique quantique. D'ailleurs, détail accessoire, c'est aussi une autre... C'est un autre postulat de la mécanique quantique qui est rarement signifié en tant que tel, mais voilà. Donc c'est tout, la mécanique quantique. Voilà, c'est comme ça qu'on en est. C'est là où on en est. Maintenant, je repars sur la cosmologie. Hein, j'ai dit, j'évolue l'espace et le temps. Je vais vous la faire courte pour ne pas trop traîner non plus. Mais... Donc la cosmologie, pour vous rappeler, comme je vous ai dit, vous regardez l'univers, vous regardez les différentes propriétés. La première chose qu'on voit, c'est... que le ciel est isotrope, avec une assez bonne précision. Hein, ici, c'est au 10 millième quand même. Hein, quand on regarde la température dans le ciel, on mesure la température du fond cosmique, du fond diffus cosmologique, et on obtient quelque chose qui est parfaitement isotrope. Enfin, relativement, bien parfaitement isotrope. Alors, par exemple, là, ça, c'est ce qu'on mesure. Vous voyez, la courbe de Planck, dont je parlais tout à l'heure, l'univers est un corps noir, lui aussi. D'ailleurs, c'est le meilleur qu'on sache faire, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on sache faire un meilleur corps noir que celui-là. Et vous voyez, ça, c'est toutes les données d'observation, et la courbe qui est en dessous, c'est la courbe de Planck. L'univers est décrit par une seule et unique température, en gros, hein, qui est donc 2,7 Kelvin. C'est pas très chaud. Une fois que vous avez cette vision-là, eh bien, vous regardez, là encore, de là où on est, je vous ai dit, on est sur dans une galaxie quelconque, et puis on regarde des tranches d'univers comme ça. Et on regarde à différentes échelles. Hein, comme on est dans un institut d'astrophysique, il faut quand même toujours un petit peu montrer des images d'astrophysique. Donc on regarde à différentes échelles. Vous voyez, on peut regarder typiquement des galaxies, des ensembles de galaxies, puis de plus en plus de galaxies, et puis on regarde, et puis il y a de plus en plus de galaxies de partout. Puis à l'arrivée, voilà le genre d'image que vous obtenez. Alors les trous qui sont là, c'est juste parce qu'on n'a pas observé dedans, pour autant que je sache. Et vous voyez, alors chaque point globalement correspond à une galaxie que vous auriez observée, avec différentes... Alors, ne m'en demandez pas plus là-dessus, c'est pas moi qu'il faut poser des questions là-dessus, mais moi, ce que je peux voir là-dessus, c'est qu'à peu de choses près, j'ai l'impression qu'on discerne de vagues structures, mais que globalement, c'est quand même relativement homogène. OK ? Donc, homogène, c'est à peu près partout pareil, quoi. En gros, hein, on voit bien que c'est homogène avec des petits trucs en plus, quoi, mais c'est pas... Voilà, c'est l'idée. Et donc, en gros, pour résumer, si je prends dans l'univers, je vois l'isotropie plus l'homogénéité. Alors, les deux, là, ensemble, c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. Vous ajoutez à ça la relativité générale d'Einstein et vous obtenez l'expansion de l'univers. Je vais y revenir. Donc, notamment discuté par ce monsieur, Hubble, dans les années 20, mais aussi par Georges Lemaître, ici, en compagnie de quelqu'un, je ne sais plus. Voilà. Alors l'expansion de l'univers, je vais vous expliquer quand même ce que c'est, rapidement. C'est parce qu'on a tendance à imaginer, on présente souvent la chose avec un ballon qui gonfle, tout ça. Mais après on demande toujours, mais dans quoi il gonfle? Voilà. Donc là, j'ai pas de ballon, j'ai juste un truc à deux dimensions, mais qui pourrait être à trois dimensions. Ça vous dit que si à un certain temps, j'ai ces objets qui sont répartis comme ceci sur un triangle, Ça n'a pas l'air très cosmologique, ça, mais mettons que vous ayez ça comme ça. Au temps suivant, les objets se sont un petit peu écartés les uns des autres. D'accord ? Et ça, vous pouvez l'imaginer en trois dimensions, c'est pareil. Il n'y a pas besoin que ça gonfle dans quelque chose. Les objets bougent. Vous voyez, la taille de mon cadre ici n'a pas changé. Et ça, ça m'implique que si j'étais ici, vous voyez, celui qui était là, donc celui-là est passé là, donc il s'est déplacé un petit peu, et celui qui était un petit peu plus loin, il s'est un petit peu déplacé plus aussi. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Plus je m'éloigne, plus les objets que je regardais étaient loin au premier temps, plus ils se sont éloignés. Ce qui veut donc dire que là, je les vois avec une certaine vitesse qui est proportionnelle à leur distance. Plus ils étaient loin, plus j'ai l'impression de les voir aller vite. Parce qu'il s'est passé le même intervalle de temps, mais il y a eu une distance plus grande. Donc en gros, je les vois, plus ils sont loin, plus ils vont vite. Voilà. Alors ça, c'est soi-disant mesuré par Hubble en 1929. Bon, maintenant, n'importe qui enverrait ce genre de diagramme dans un journal pour publication, avec en plus, enfin, il n'y a pas la moindre barre d'erreur, c'est du grand n'importe quoi, et en plus une approximation comme ça, qui par ailleurs s'est révélée fausse, si mes souvenirs sont bons, d'un ordre de grandeur ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, il se trouve que l'idée était correcte. Rassurez-vous, on peut faire mieux maintenant, hein, et encore ça, c'était oui, il y a 30 ans. Hein, donc on peut faire vraiment beaucoup mieux, et globalement, voilà, ça marche. Et donc voilà, c'est juste ça l'expansion de l'univers, il n'y a pas à chercher plus loin. Et c'est une solution de la relativité générale. Donc maintenant, puisque vous, quand vous revenez dans le temps, si l'univers est en expansion, du coup quand je reviens dans le temps, bah, il est plus petit. D'accord ? Mais si la taille était plus petite, la densité, vous avez à peu près le même nombre de trucs, vous remontez en arrière, bah, la densité est plus grande. Mes arguments là qui viennent sont un peu spécieux, mais c'est juste pour donner l'idée. Hein. Si la densité est plus grande, évidemment les objets vont se cogner plus régulièrement. Donc les interactions sont plus fortes. Plus fortes, ce n'est pas des interactions fortes au sens de la physique des particules, ça cogne plus fort. Quoi, hein, voilà. Donc d'une certaine manière, on peut imaginer que ça corresponde à une température plus élevée. Donc tout ça mélangé, ça vous dit qu'on peut fabriquer une histoire thermique de l'univers. Ça, vous le savez déjà, j'imagine. Enfin, vous le savez d'autant plus que je vous l'ai déjà montré, c'est ce truc-là, c'est ce diagramme qui est ici. Voilà. Alors, de ce diagramme, comme je vous ai dit, il y a cette image initiale, l'image de Planck. Voilà, donc ça, c'est 380 000 ans avant le Big Bang. Et, ah mince, dommage. Voilà, et donc là encore, en gros, je peux calculer, j'ai cette vision-là. À partir de là, je peux calculer vers l'avant pour savoir ce qui va se passer, et comparer avec ce que j'observe, ou calculer vers l'arrière pour savoir ce qui s'est passé. D'accord ? Et donc, dans mon image, voilà, Planck, c'est à peu près ici, dans l'histoire de l'univers. Ça, c'est l'histoire de l'univers. Depuis le Big Bang, ici, à une température qui est la température de Planck, je vais y revenir. Ici, il y a un certain nombre de théories. On comprend vaguement comment ça fonctionne, mais on ne les a pas testées, parce qu'on a mesuré que jusqu'ici, au LHC. Ça, c'est le modèle des interactions électrofaibles, qui descend ensuite. Et puis là, c'est quelque chose qu'on comprend, plus ou moins, de plus en plus et de moins en moins. Enfin, voilà. Et une fois qu'on a ça, on a des conditions initiales et on peut faire les évolutions. Voilà, l'exemple typique d'un truc, on va regarder l'évolution de l'univers, des objets. Alors, vous ne voyez rien, et en plus, je ne vais pas commenter, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce film est relativement ancien maintenant. Il m'a été fourni par M. Pichon, que je remercie, il y a déjà un petit moment. Et puis, parce qu'en plus, le dit M. Pichon étant dans la salle, je ne veux pas dire de bêtises et pas risquer quoi que ce soit. Donc, voilà, je ne vais pas commenter là-dessus. Mais voilà, c'est typiquement, on fait ensuite des simulations, des observations et tout. Et on obtient, voilà, on compare les observations avec ce genre de simulation. Et on obtient quelque chose qui marche merveilleusement bien. Alors, je vous signale quand même, on a un diagramme ici. Alors, certes, on peut écrire des livres entiers sur le sujet, mais globalement, on peut raconter toute l'histoire de l'univers sur les 13,7 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang jusqu'à maintenant, en un seul livre. Donc, autrement dit, on a quand même bien compris les choses et ça marche magnifiquement bien. Donc, à partir de là, vous pouvez vous dire, bon, bah, pourquoi on écoute ça? Si ça marche bien, merci, au revoir, quoi. Alors, pas tout à fait. Parce qu'il y a quand même, là, il y a le moment de ce qu'on appelle l'époque de Planck, qui va nous poser un problème, et évidemment, c'est juste pour ça, c'était la plus longue introduction de l'histoire des séminaires de l'IAP, probablement, où je finis par arriver à mon sujet. Mais je pense que c'était à peu près important d'avoir l'idée générale de l'ensemble du système. Voilà, on a tout un système ici qui est décrit par la relativité générale, par la mécanique classique, hein, donc pour la relativité générale, la physique statistique, la thermodynamique. Alors on a aussi les interactions faibles, les interactions fortes, pour la désintégration, la production de la nucléosynthèse, tout ça, ça marche. Tout ça, c'est décrit par de la physique extrêmement bien connue, et puis il manque une physique ici. Alors là, le problème est le suivant. Je vous ai dit que l'univers est en expansion, donc on mesure un truc qui s'appelle le facteur d'échelle, c'est cette ligne-là. Donc on mesure ici, et puis partant du contenu de l'univers, la relativité générale nous explique comment le calculer. Alors évidemment, le contenu de l'univers, on peut se tromper ici ou là, donc c'est pas 100% certain, mais donc on a plusieurs possibilités. En partant du point où nous sommes ici, le temps va par là, le facteur d'échelle, donc la distance entre deux objets quelconques, donnée purement par la géométrie de l'univers cosmologique, cette distance, elle va augmenter, peut-être elle va retomber derrière. Là, quand on revient dans le passé, bah, peut-être elle va faire comme ça, ou ça. Mais vous voyez que dans les trois figures, là, le facteur d'échelle, ici, il y a un moment, il tend vers zéro. Enfin, il ne tend pas vers zéro, d'ailleurs. Il va à zéro. Il devient identiquement nul. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous prenez tout l'univers tel qu'il est là maintenant, et puis vous mettez tout ça en un point, un seul et unique point. Alors le point, je ne suis pas sûr que ce soit très très lisible ici, mais ça veut dire que des diagrammes simples, on peut en faire, hein, malgré les choses compliquées. Quand vous prenez le temps cosmique, et puis vous remontez dans le temps, vous avez une densité d'énergie qui est, mettons, celle-là, et puis vous remontez dans le temps, et quand vous vous approchez de cette singularité, eh bien le temps cosmique ici, il diverge. Il diverge, ça veut dire qu'il devient infini. Et là, je suis en train de parler de la densité d'énergie. Donc j'ai, dans mon système, une densité d'énergie. Le degré de liberté, c'est la gravitation. La gravitation, c'est la géométrie. Mon système devient géométriquement petit. Donc il est dans certaines configurations qui le concernent lui-même par rapport à la géométrie, et qui devient avec une densité d'énergie qui commence à devenir infinie. Ça devrait peut-être vous rappeler quelque chose. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc on avait un autre système dans lequel il y avait une prédiction classique avec des degrés de liberté classiques qui étaient les ondes, qui avaient un paramètre qui était la fréquence, qui augmentait, et à ce moment-là, la densité d'énergie augmentait aussi. Donc il est assez naturel de se dire, eh ben, peut-être qu'il faut faire la même chose que qu'on a fait avec la mécanique quantique, il va falloir quantifier, et si on quantifie, eh bien, au lieu d'aller jusqu'à l'infini, on va régulariser la chose. D'accord ? Donc si je régularise la chose, eh bien, je dis que ces deux systèmes sont, voilà, c'est essentiellement la même chose. Évidemment, c'est dessiné pour, hein, mais même c'est pas terriblement bien dessiné, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu l'idée, vous voyez ? Ok, mais donc si je fais ça, ça veut dire quoi ? Bah, que je quantifie. Si je quantifie, alors c'est là où ça va commencer à être chaud, c'est que mon système, c'est un système quantique maintenant. Mon système quantique, il n'y a plus de propriétés intrinsèques que je puisse mesurer comme je faisais classiquement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que maintenant, mon système, eh bien, il est décrit par un état, et que cet état, vous voyez, c'est en petit, mais croyez-moi sur parole, c'est toute l'histoire de l'univers. Vous avez du Big Bang jusqu'à maintenant, ça décrit un état. Alors, en fait, il y a plein d'autres solutions possibles en relativité générale, il y en a un qu'on observe ici, mais quantiquement parlant, si j'accepte de dire que la gravitation fait partie des lois de la nature ordinaire et qu'elle doit donc être quantifiée, eh bien cet état-là, ça n'est qu'un état parmi d'autres possibles. Il se trouve que c'est celui que je mesure, mais c'est celui que je mesure maintenant. C'est pas pour ça qu'il était correct à ce moment-là. Alors ça tombe bien, puisque c'est ça ce que je veux arriver à obtenir. Et à ce moment-là, je vous signale un petit souci quand même. Parce qu'une fois que j'ai quantifié, tout ça c'est bien gentil, mais une fois quantifié, je mesure normalement. Comment je mesure ? Je répète l'expérience. C'est ennuyeux pour l'univers. L'univers, il y a uni dedans, et uni, ça veut dire seul. Donc répéter l'expérience sur un objet unique, ça risque d'être un peu technique. Alors, il y a des moyens d'embrouiller un petit peu les choses, c'est quand on regarde, je vous ai montré le fond diffus cosmologique. Alors le fond diffus cosmologique, c'est pareil, il vient aussi de la mécanique quantique en principe. Mais alors lui, c'est plus facile, entre guillemets, parce qu'on peut regarder différents endroits dans le ciel. Donc si on est sur des petites distances, le fond diffus cosmologique, c'est comme si on répétait l'opération plusieurs fois. Et donc on arrive à dire que ça marche à peu près. Mais en fait, le problème, c'est maintenant, c'est l'univers lui-même. Si je veux résoudre le problème de la singularité, comment je vais faire ? Alors d'abord, pour ça, il faut que je me souvienne de quoi on parle quand on parle de la gravitation. On parle de l'espace-temps. Si je parle de l'espace-temps, je me rappelle l'espace-temps de Newton ou de la relativité restreinte, c'est ceci. Donc il y a l'espace, Et à chaque intervalle, à chaque temps qui passe, l'espace se reproduit identique à lui-même. Et on fabrique un espace-temps newtonien qui est, bah, je mesure le temps de quelque manière que je veuille, ça ne change strictement rien aux propriétés de l'espace, et c'est ça. Okay. La relativité générale, basée sur cette équation horriblement compliquée, donc ça vous dit la même chose, mais ça vous le dit plus profondément. Qu'il y a une dimension de temps, comme je l'ai dit, il y a trois dimensions d'espace, mais ceci forme un espace-temps. Mais si ça forme un espace-temps, je peux quand même développer mon espace autour du temps qui passe. Ça, j'ai toujours le droit de le faire. Et maintenant, je vais dire, en fait, chaque espace est courbe. Et le temps lui-même est relativement mal défini dans cette approche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une horloge. On va dire qu'on a une horloge. Alors une horloge, ça peut être vraiment n'importe quel système physique. Un pendule, évidemment, hein, la première horloge à laquelle on peut penser. Mais aussi un ensemble de particules radioactives dont on va compter le nombre qu'il en reste. Sans mettre un chat à côté, hein, tant qu'à faire cette fois-ci, on n'est plus obligé. Pas obligé de massacrer des chats à chaque expérience qu'on fait en mécanique quantique. Et donc on va avoir cette horloge. Et cette horloge, à chaque intervalle de temps défini par cette horloge, on va regarder la courbure de l'espace. On a une courbure de l'espace qui est donnée à chaque intervalle de temps. Et je peux faire ça avec n'importe quelle horloge. J'aurai des résultats différents, mais la physique que je mesurerai sera toujours la même. J'aurai l'impression d'avoir des résultats différents parce qu'il y a une courbure spatio-temporelle, mais la physique résultante sera toujours la même quand je fais des calculs. Bon, donc maintenant, en fait, à chaque intervalle de temps, mon état de mon système, c'est une géométrie de l'espace. Je suis désolé, hein, c'était un peu implicite dans mon résumé, c'est un peu... Voilà. Donc c'est une géométrie de l'espace à chaque intervalle de temps, et ça, je fabrique un ensemble. Donc maintenant, je vais prendre les règles de la mécanique quantique, et je vais fabriquer un ensemble d'états possibles. Eh bien, cet ensemble d'états possibles, c'est l'ensemble de toutes les géométries de l'espace possibles. Voilà, et avec ça, vous fabriquez tout ce que vous voulez. Et évidemment, maintenant, je me dis, est-ce que ça résout le problème de la singularité? Alors, pour ce faire, eh bien, il faut regarder, je veux parler du facteur d'échelle. Le facteur d'échelle, maintenant, c'est devenu un objet comme la trajectoire d'une particule, et puis je peux imaginer de calculer un peu ce facteur d'échelle dans mon état. J'ai un état donné, et puis je regarde la valeur du facteur d'échelle sur cet état. C'est possible, mais je vais y revenir. Et puis, on calcule, et voilà le genre de choses qu'on trouve, donc proposé dans les années 90, vous voyez, ça ne rajeunit pas. Et alors, en fait, ce qui est amusant, c'est que ça... Quand c'est en ligne droite, dans ce calcul-là, quand ça va en ligne droite, le facteur d'échelle, encore une fois, c'est la distance entre deux objets. Eh bien, quand c'est en ligne droite, c'est la relativité générale. C'est la solution de la relativité générale. Et vous voyez que donc ça décroît. Mettons que ça commence ici, ça décroît. Et puis, il y a un moment où donc la relativité générale, elle va jusqu'à zéro. Hein. Donc, normalement, on a la singularité. Et là, justement, les effets quantiques semble résoudre le problème de la singularité, puisque ce facteur d'échelle ne passe pas par zéro, et ça rebondit. Voilà l'exemple typique d'un premier truc qu'on peut obtenir. Alors, on a refait ça plus récemment avec Przemek Malkiewicz et Sandro Vitenti, qui était un élève de Nelson Pintonetto ici. Ici, on est, comme le disait Florence, ça c'est le Brésil et ça c'est la Pologne. Et donc on refait ce genre de calcul, et de la même manière, vous voyez, on a ici une singularité, et alors il y a différentes manières de calculer le facteur d'échelle qu'on va mesurer, et on voit qu'on évite de manière plus ou moins systématique la singularité, donc on est content, on peut la calculer de diverses manières, on l'obtient, voilà, et puis alors on peut faire des trajectoires beaucoup plus compliquées aussi, hein, on peut obtenir, tout ça c'est la même théorie. Hein, voilà le nombre, vous voyez, en partant des mêmes conditions ici, on peut obtenir cette trajectoire-là, celle-là qui fait un petit bip au milieu, celle-là qui rebondit, qui redescend, qui repart derrière. Vous voyez, on peut obtenir absolument tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi, je sais. Et surtout, on obtient par contre un point crucial, c'est qu'effectivement, on semble résoudre la singularité. Donc on n'a plus de problème de singularité. Voilà, donc ça paraît être une solution. Et on a un rebond primordial. Donc la configuration générale dont on parle, c'est la configuration suivante. On a un univers, alors je ne vous ai pas montré, mais... Ah mince, désolé. Voilà, ici, ça aussi, ça respecte la relativité générale. Donc on a une solution ici qui est classique, là, qui est classique, et au milieu, qui évite la singularité d'une manière quantique. D'accord ? Donc maintenant, il faut que je redéfile mes trucs. Voilà. Donc la solution générale dont on parle, c'est un système comme ceci. Donc on a un espace-temps grand, comprenant ce qu'on veut, on n'en sait rien d'ailleurs, hein, et puis qui se contracte sur lui-même. Arrive un moment où on a donc une zone où ça rentre dans un état quantique. Mais alors, un état quantique, j'ai un peu triché quand je vous ai dit qu'on avait une trajectoire qui évitait la singularité. Parce que je crois l'avoir dit pour les électrons, il n'y a pas de trajectoire en mécanique quantique, théoriquement. Alors, on peut en fabriquer, ben, je vous en ai montré, c'est parce qu'on peut en fabriquer, mais théoriquement, il n'y en a pas. Fondamentalement, il n'y en a pas. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a une situation classique ici, une autre situation classique ici, et que jamais au milieu, la densité d'énergie n'est devenue infinie. Donc on peut, autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut faire les calculs pour passer de l'un à l'autre. Et quand je vous dis que l'univers est passé par un rebond, c'est que je peux calculer une sorte de trajectoire qui passe par un rebond. Mais je peux en calculer une autre, et puis deux autres, et puis 50 autres si je veux. Et tous ces états-là sont aussi bien des états accessibles. Donc, en réalité, de manière quantique, je dois faire une somme sur tous ces états. Ça doit être plus ou moins... ils doivent se mélanger les uns avec les autres, d'une certaine manière. En plus, sur ces états-là, initialement, on doit mettre aussi des perturbations. Je vous ai dit qu'on voit des perturbations dans le fond diffus cosmologique qui permettent de construire ensuite les grandes structures qu'on observe. Il faut qu'il y ait des perturbations, et ces perturbations-là sont aussi quantiques. Alors elles, par contre, elles le sont tout le temps. Hein, sauf maintenant, où elles ont fini par devenir classiques. On ne sait pas trop comment, mais elles ont fini par devenir classiques. Mais normalement, elles commencent en étant quantiques tout le temps, elles. Donc il faut faire encore une fois des sommes là-dessus. Et même, bon, dans certains cas, ça commence à devenir un peu compliqué. Et puis maintenant, j'ai mis cette représentation-là. Bon, d'accord. Mais je peux avoir une représentation comme ça, ou je peux avoir plusieurs rebonds comme ça. Je peux avoir plusieurs situations. Ça peut être aussi des situations quantiquement acceptables, et puis qui repartent comme ça. Enfin, je peux avoir plein de solutions extrêmement compliquées. Pour vous montrer à quoi ça correspond, quand je parle de trajectoire, en l'espèce, on a obtenu certaines solutions exactes. Alors, c'est des cas très simplifiés, hein, évidemment, mais on a fait ça aussi avec donc, Hervé Bergeron, je travaille aussi avec des Français occasionnellement. Ici, on montre, alors ça, c'est une sorte de trajectoire. C'est l'expansion de Hubble, c'est le facteur de Hubble d'expansion, le taux d'expansion. Alors, quand il est négatif, évidemment, c'est un taux de contraction, c'est la vitesse à laquelle l'univers se contracte, et là, c'est la vitesse avec laquelle il est en expansion. Voilà. Classiquement, la solution classique, ce serait d'aller là et ça va juste jusqu'à zéro. D'accord ? Et puis là, on a une... Ici, c'est la densité de probabilité. Je vous ai dit qu'on ne peut calculer que la densité de probabilité. C'est la règle de Born dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on calcule des courbes de niveau de cette densité de probabilité. Et comme vous le voyez, cette trajectoire qui est là va être suivie par le maximum de la densité de probabilité, c'est fait pour, hein, évidemment, c'est de la triche, bien sûr, mais... Et donc, cette densité de probabilité, elle part de là, et puis elle se rapproche, et puis là, vous voyez, elle évite la singularité, c'est-à-dire que la courbe de niveau, c'est comme ça qu'on peut calculer des trajectoires, cette courbe de niveau n'atteint jamais zéro. Donc, elle évite toujours la singularité. Mais, évidemment, on a tracé la courbe ici, comme pour guider l'œil, comme les autres trajectoires que j'ai tracées. Mais c'est pour montrer où est le maximum de la probabilité. Mais ça ne veut pas dire... C'est un maximum de probabilité. C'est-à-dire qu'un peu à côté, c'est encore non nul. Donc vous pourriez avoir des trajectoires, s'il y avait une réelle trajectoire, c'est-à-dire si vous mesurez la taille du facteur d'échelle à chaque point, à chaque temps, vous allez trouver peut-être quelque chose de beaucoup plus erratique que ça. Mais globalement, voilà l'idée générale que ça va avoir. Et voyez, ici, on évite et on repart dans l'autre sens. Et c'est amusant parce qu'évidemment, cette partie-là et cette partie-là sont des parties classiques. D'accord ? Donc jusque-là, bon ben voilà, on est content, on a montré explicitement comment on faisait pour résoudre le problème de la singularité comme ça. Mais, ben je vous le rappelle, on a quand même notre principe de notre chat Schrödinger. Mais maintenant, autant Einstein avait fait l'idée d'un baril de poudre explosé ou pas explosé, Schrödinger passe au chat, allons un cran plus loin joyeusement et passons à l'univers. L'univers dans son entier, je peux avoir plusieurs états de l'univers. voyez, typiquement, ben voilà, je peux avoir une trajectoire telle que celle que je viens de vous montrer, là, un état tel que je viens de vous montrer, avec une trajectoire qui se contracte, qui passe par un rebond ici et qui repart dans l'autre sens. Et nous, on est ici. Enfin, nous, on n'est même pas dans cette salle, hein, au niveau de ce diagramme, hein, pour observer les choses. Et puis, on a cette possibilité-là, et puis on a cette autre possibilité-là. Et comme je vous le disais, ben, on peut tout simplement additionner les deux. Et comme en plus de ça, il faut que vous rajoutiez les perturbations qui elles-mêmes peuvent se superposer les unes sur les autres, on peut avoir un système horriblement compliqué. Et puis surtout qui a l'air de faire à peu près n'importe quoi. Alors vous le faites explicitement, maintenant je calcule explicitement, je prends deux trajectoires possibles, vous voyez, toujours j'écris la trajectoire, et je vous mets les transitivités de probabilité qui correspondent à ces deux trajectoires qui sont là. Donc vous voyez, là, on est relativement au départ assez éloigné, et puis ces deux choses-là commencent à se mélanger. Et quand les choses commencent à se mélanger, après, ça repart. Mais quand vous regardez un petit peu ces trucs-là qui se mettent, quand ça commence à se mélanger, la densité de probabilité, ça se met à faire des oscillations de partout. Les oscillations de partout, bah, ça devrait peut-être vous rappeler quelque chose, c'est des interférences. C'est la même chose, c'est le même phénomène que ce qu'on a fait quand on a envoyé des électrons sur les franges Young, sur l'expérience de Young. Et en fait, les électrons interagissent avec eux-mêmes. Chaque électron interagit avec lui-même et voit qu'il existe une fonction d'onde. Ben là, c'est exactement la même chose. Ces objets-là interagissent avec eux-mêmes. L'univers interagit avec lui-même. Alors, vous voulez dire, on peut faire autrement. On peut interpréter ces choses-là aussi. On peut dire, oui, en fait, il n'y a qu'un seul univers. Par définition. Mais il y en a d'autres qui sont des univers virtuels. Sauf que ces univers virtuels, ils vont se mélanger avec le nôtre d'univers, à cause du fait qu'il y a des perturbations. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais comme ces univers peuvent se mélanger, en réalité, quand vous en regardez un, vous allez voir la trace de l'autre. Et donc, vous n'aurez pas un système simple. Vous aurez nécessairement une superposition. Donc vous allez vraiment appliquer votre principe de superposition maintenant à l'univers dans son intégralité, à l'ensemble de la cosmologie. C'est-à-dire l'état total, en réalité, c'est votre premier univers avec tout le système. Alors évidemment, c'est surtout cette partie-là qui est concernée. Vous allez vous arranger pour que l'état qui est ici contienne essentiellement des univers qui sont classiques, au moins dans certains régimes. Et donc probablement, ils se recouvriront plus. Mais... Vous voyez, vous avez cette possibilité-là, cette autre-là. On peut en imaginer autant qu'on veut. Et alors, on va utiliser ces univers qui se mélangent pour faire des prédictions, comme j'ai dit. Parce que tout ça, ça a des conséquences. Évidemment, quand vous regardez, comme j'ai dit, vous voyez les électrons, dans l'expérience des franges Young, l'électron, il va se poser en un point donné. Mais en fait, il a senti qu'il y avait d'autres endroits, puisque à l'arrivée, quand on regarde la distribution statistique des électrons, ils ne se sont pas mis n'importe où, comme si les autres électrons n'existaient pas. En fait, il a vu qu'il existait tout l'ensemble de l'espace et toute sa trajectoire a sondé tout le reste de l'espace, d'une certaine manière. Eh bien là, c'est pareil. Si je projette ensuite, ce que je mesure, mettons que ce soit cet univers-là. Mais en fait, même si je mesure que cet univers-là, il a ressenti les autres. C'est ce qu'on appelle des trucs à une boucle, si vous voulez. C'est comme ça qu'on appelle ça en physique des particules. Il a ressenti l'existence des autres objets, des univers virtuels. Donc les univers virtuels, ils vont nous donner... le premier effet, c'est que le fond diffus cosmologique devrait... On ne va pas le voir exactement comme ça. Alors de fait, on le voit exactement comme ça. Donc ça veut dire, en fait, dans l'autre sens, que... ce que je suis en train de dire, c'est que la mesure du fond diffus cosmologique tel qu'il est nous permet... de donner des contraintes sur ça. Ça nous permet de donner des contraintes sur les taux de mélange qu'on va obtenir. Alors vous allez me dire, bon, ben, c'est facile, il suffit de mettre zéro partout, voilà, il n'y a qu'un seul univers, et donc on a ça, et terminé, problème réglé. Ben, pas forcément, justement. Parce que le problème, c'est que mettre zéro partout, pensez bien qu'on a essayé, hein, c'est la première idée à laquelle on peut penser, on met juste un ici, et puis zéro partout, mais manque de peau, ça ne reste pas zéro. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'enchevêtrement quantique qui mélange justement les perturbations entre les différents objets. On est obligé d'avoir un effet. Et comme on est obligé d'avoir un effet, bah, ça donne des contraintes maintenant sur la théorie possible. Et alors évidemment, pouvez-vous dire, bon, ok, dans le pire des cas, ça va donner des effets sur le fond diffus cosmologique, aucune espèce d'intérêt. Ben oui, mais non, parce qu'une fois qu'on a le fond diffus cosmologique, on met ça dans les simulations numériques et on obtient les grandes structures. Mais les grandes structures, oui, c'est vraiment illisible ici, je suis désolé. Mais les grandes structures qu'on a ici, comment vous dire, on en fait partie. Donc d'une certaine manière, la physique qu'on va faire dans notre laboratoire maintenant va dépendre de ce qu'on aura mis ici. Et la compréhension de ce qu'on peut faire dans le laboratoire va dépendre de ça. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'utilise l'univers, moi, comme un laboratoire. Comme un microscope. Ça n'a pas l'air évident comme ça ici, mais en fait, c'est un microscope. Je m'en sers comme d'un microscope pour aller aux très très hautes énergies. Et ça, ça peut changer la physique à des énergies standards. Ça peut changer notre compréhension de la mécanique quantique. Évidemment, c'est ce que j'espère. Hein. Bon, je pense qu'il est à peu près le bon moment pour récapituler. Hein, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit suffisamment de fois pour que vous soyez même un peu gavé avec, la mécanique quantique, c'est le principe de superposition. C'est la notion de Schrödinger avec carrément des univers qu'on peut faire, qui fabriquent des interférences. Je vous signale qu'on fait actuellement du principe de superposition avec des bactéries. Je vous ai montré avec des électrons. On arrive à le faire assez facilement, entre guillemets, avec des objets plus gros, genre des fullerènes, ça s'appelle des C60, c'est-à-dire c'est quand même des bonnes molécules déjà, hein, pour lesquelles les effets quantiques sont loin d'être évidents. On arrive à le faire. Il y a des gens qui ont travaillé sur faire des superpositions de virus. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire sur des bactéries, parce que le virus, dépendant des définitions, il semblerait que ce ne soit pas un truc vivant. Par contre, une bactérie, oui. Donc on essaye de faire ça sur des bactéries. C'est ultra technique, mais dans les faits, l'idée, c'est d'avoir des interférences entre des bactéries elles-mêmes. Donc reproduire cette figure d'interférence en balançant des... Alors, ce n'est pas en balançant des bactéries contre un mur, hein, mais c'est une version améliorée de ça, quoi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la cosmologie donne une description incroyablement satisfaisante, en fait. Hein, pratiquement toutes les données qu'on a observées, on a un modèle simple, phénoménologique. On y croit, on n'y croit pas, ce n'est pas la question. Il explique toutes les données. Il y a un cadre théorique. On a tout un tas de données qui partent dans toutes les directions. C'est juste incroyable. Venez assister à tous les séminaires de l'IAP. Vous verrez dans quelle direction ça va. Ça va de partout. Et ça marche. Et comme je vous disais, on peut, en un seul livre, décrire toute l'évolution sur 13 milliards d'années. Hein, c'est quand même pas mal. Et ça produit une singularité, classiquement, ça, inévitablement. Il n'y a pas à dire, on s'en sort pas de ça. Il y a des gens que ça dérange pas. Bon, moi, ça me dérange un peu de commencer... vous avez toute une théorie super, une évolution géniale qui marche parfaitement bien, et ça commence par un point que vous comprenez pas, il faut le retirer de la théorie parce qu'il marche pas. C'est au choix. Hein. Moi, ça me satisfait pas. Et donc, on est obligé de mélanger les deux pour faire de la cosmologie quantique, qui donc requiert plusieurs états possibles. Et donc, le fait qu'il existe des univers virtuels et que dans les données... Alors pour ça, il faudrait le calculer. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pas si facile. Dans les données, on peut voir les univers virtuels parce que notre univers, entre guillemets, réel, a dû nécessairement sonder l'existence des univers virtuels. Et si on peut sonder les univers virtuels, si on peut le voir par des interférences, hein, techniquement parlant, c'est la manière la plus simple, c'est de voir au travers de non-gaussianité. Je ne rentre pas dans les détails, sauf si vous me posez des questions, évidemment. Mais voilà, il y a une manière technique de le mesurer de manière assez simple. Et on peut avoir la superposition de tous ces univers virtuels. Et donc, je vais m'arrêter là. Voilà, on a plein d'univers possibles, virtuels, les uns avec les autres. Et ça produit des effets et c'est la cosmologie quantique, et c'est top. Voilà. Merci de votre attention.
Voilà. Des questions ? Dans la salle d'abord et puis sur YouTube après.
Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire, tout ce dont vous nous avez parlé, est-ce que ça veut dire qu'on vient d'un rebond, qu'on y retourne et qu'il y avait un avant ? Ou alors c'est le rebond, c'est une hypothèse ?
Alors, c'est une interprétation possible. Je ne vais pas vous dire qu'on vient d'un rebond comme ça, de manière péremptoire, parce que, de toute façon, quand on est physicien, on n'est pas péremptoire, hein, par définition. On a le doute et toutes ces choses-là. Mais je ne peux pas vous dire qu'on vient d'un rebond. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on essaye de résoudre le problème de la singularité, parce que ça, je vous l'ai dit, elle est inévitable, quand on essaye de résoudre ce problème, on tombe toujours sur quelque chose qui va ressembler à un rebond. Donc de là à en déduire qu'on en vient de manière obligatoire, on peut aller à cette conclusion, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que c'est assez possible. On peut décrire ces choses-là comme si c'était un rebond. Donc oui, on peut le considérer, oui, mais c'est pas... Maintenant, pour le prouver de manière effective, il faudra aller un cran plus loin.
D'autres questions ? Oui ?
Oui, bonsoir. Vous avez parlé de Stephen Hawking tout à l'heure, et il me semble que dans Une brève histoire du temps, il dit la chose suivante, l'univers est tel qu'il est parce que nous sommes là pour le voir.
Aïe. Oui. Alors là, vous parlez, c'est clair que Stephen a parlé de ça, ça vient plus essentiellement du principe anthropique, qui malheureusement pour moi m'en parle aussi souvent, puisque c'est notamment développé par Brandon Carter. Donc oui, c'est une... On peut voir ça comme ça. Alors, vous voyez, dans la mécanique quantique, il y a plein de réponses possibles. Là, je peux partir, je peux prendre une heure si vous avez un moment. Il y a plein de choses.
On s'arrêtera avant quand même.
Non, mais je vais essayer de faire plus court. Mais il y a plein de choses en fait là-dedans. L'univers est là, mais au niveau quantique... Je vous ai dit qu'il faut qu'on observe l'univers pour qu'il soit là où il est. Comme je vous ai dit, une particule, elle n'est pas ici ou là. Elle est quelque part quand on la mesure quelque part. À ce moment-là, on peut dire qu'elle est là. Mais avant, non. Donc, pour que l'univers, si l'univers a une phase quantique, pour éviter la singularité, alors il a fallu qu'on le mesure, effectivement. Qui le mesure en l'espèce, c'est nous. Alors, de là à dire que c'est nous qui avons fait apparaître l'univers en le mesurant, c'est un peu autre chose, parce qu'il faut d'abord qu'on existe pour ça. Donc, tout ça, ça se discute. Mais... Une autre approche consiste aussi à dire que, eh ben, globalement, on est là. Jusque-là, c'est juste un fait d'observation. On est là pour décrire l'univers et pour faire nos calculs. Et donc, il y a deux choses. La physique elle-même doit être en accord avec notre présence. Mais simplement, l'hypothèse de l'existence d'être intelligent, enfin plus ou moins, mais bon, ça implique que le Soleil fait 6000 degrés. Par exemple, c'est idiot, mais on peut calculer des petites choses comme ça. C'est une application simple du principe anthropique. Alors de là à impliquer que l'univers est tel qu'il est maintenant, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est dans cette ligne. Vous voyez, il y a les différentes approches possibles, quoi. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais oui, on peut dire comme ça, pourquoi pas.
Encore une question, peut-être ?
Il y a un monsieur ici.
Oui, bonsoir, merci beaucoup. En fait, j'aurais deux questions. On a dit tout à l'heure qu'on arrive à l'ère de Planck et que là, toute notre physique ne peut plus s'appliquer. Et vous nous dites, si j'ai bien compris, la mécanique quantique peut nous expliquer ce qui se passe après, avant, pardon. Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui, oui, vous avez bien compris. Ce que j'ai dit explicitement, c'est que il est requis de quantifier la gravitation. Alors évidemment, on ne sait pas faire. Donc je vous ai un peu menti d'une certaine manière. Mais oui et non. Parce qu'en fait, plus précisément, il y a plusieurs approches. Le fait est qu'il n'y en a pas une. S'il y avait une théorie de la gravitation quantique, on serait content. Et en fait, en réalité, il y a plusieurs approches. Il y a la théorie des cordes, il y a la théorie de quantification à boucle, il y a la quantification canonique, il y a un certain nombre de choses possibles à faire. Et en réalité, les principes de la mécanique quantique, quand on les applique, en fait, ce que j'ai dit là, j'ai pris des exemples explicites, en l'espèce, en utilisant de la quantification canonique de la gravitation, mais ça s'applique aussi aux autres. Parce que c'est les règles de la mécanique quantique qui sont, elles, des règles extrêmement claires. Comme je vous ai dit, la grosse différence, c'est que la mécanique classique suppose des propriétés intrinsèques mesurables. La mécanique quantique suppose simplement l'existence d'états sur lesquels on peut faire des mesures. Et en fait, c'est ça que j'ai fait. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans énormément de détails et qu'on peut avoir des prédictions extrêmement vagues et extrêmement floues. Il faut prendre une version de la gravitation quantique et regarder des conséquences et vérifier qu'elles sont relativement génériques.
Ok. Et ma deuxième question, peut-être un peu plus technique. Vous avez dit tout à l'heure que dans l'expérience de Young avec des électrons, les électrons n'allaient pas n'importe où. Ils n'y allaient pas n'importe où parce qu'ils avaient, entre guillemets, une connaissance des autres trajectoires. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à l'intrication des photons ?
Alors, c'était une très mauvaise manière de parler de ma part. Comme je vous le disais, l'électron, en fait... Alors, c'est toujours pareil, en fait. En mécanique quantique, il ne faut pas aller au-delà de ce transparent mathématique odieux que je vous ai montré. C'est-à-dire, je peux calculer la probabilité de mesurer cet électron. Je n'ai, et je l'ai dit d'ailleurs explicitement, l'électron, théoriquement, n'a pas de trajectoire. Et ça n'est pas de l'intrication en l'espèce, c'est juste, c'est vraiment le cas le plus simple, c'est juste de l'interférence, des interférences de l'électron, parce que la mécanique quantique décrit un électron par une fonction d'onde. Et ensuite, elle vous dit, une fois que vous avez calculé cette fonction d'onde, eh bien, c'est un nombre complexe et son module carré vous donne la probabilité de mesurer l'objet. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez la figure d'interférence. Et la plupart des gens, enfin, à commencer par Feynman, va vous dire, eh bien, vous vous taisez, vous faites le calcul et c'est bon. Et on ne réfléchit pas plus. Alors, je vous accorde qu'on peut calculer en fait des trajectoires. C'est ce qu'avait suggéré Louis de Broglie déjà en 1924. On peut calculer des trajectoires dans cette fonction d'onde, où il avait une théorie qui s'appelait la théorie de l'onde pilote. Donc la fonction d'onde pilotait les trajectoires. Mais la fonction d'onde, elle est dans tout l'espace. Donc en fait, la fonction d'onde, quand elle va piloter la trajectoire, elle va dire à l'électron, attention, il ne faut pas que tu ailles là, parce que là, la fonction d'onde est trop petite. Donc elle va pousser l'électron à faire aller ici ou là, et quand vous reproduisez l'expérience un grand nombre de fois, vous reproduisez effectivement la figure d'interférence avec des trajectoires.
Il y avait monsieur là-bas, c'est ça? Et puis après, on prendra une ou deux questions sur YouTube.
Merci. Oui, vous avez parlé de la géométrie de l'univers, mais vous n'avez pas parlé de la topologie.
Oui. Alors, si vous voulez rajouter un niveau de complexité, c'est possible. On peut. Ça, on peut y aller. Hein. Alors, la topologie de l'univers, en général... tel que c'est fait ici, alors, avec la version de la gravitation quantique que je présente, on suppose simplement que l'espace lui-même est compact, et puis ça s'arrête là. Maintenant, il peut avoir une topologie très diverse, tout dépend de sa courbure aussi, il y a des classifications qui ont été faites là-dessus, il y a pas mal de conséquences, et en effet, alors tout ça va dépendre ensuite de la théorie quantique que vous utilisez, parce que effectivement, la relativité générale ne dit absolument rien sur la topologie. Et vous pouvez faire de la mécanique, vous pouvez faire de la mécanique de la relativité générale sur un espace qui soit infini, ouvert, ou compact, ou avec une structure de tore, ou avec une structure de n'importe quoi, avec des groupes de recouvrement absolument quelconques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et effectivement, maintenant, quand je vais mettre ça dans la mécanique, dans la quantification, oui, je dois faire une somme sur ces choses-là. Et oui, ça doit me donner encore d'autres conséquences. Maintenant, on arrive déjà à faire des calculs avec deux univers ou trois. Ah non, non. Alors par contre, la topologie ne fera rien sur la singularité. Parce que la singularité, c'est vraiment la géométrie. Donc la distance entre deux points, elle tend vers zéro de par les équations d'Einstein. Sauf si, évidemment, maintenant, vous imaginez que les équations d'Einstein sont modifiées par le fait que vous avez une topologie non triviale. Et à ce moment-là, évidemment, si vous n'avez plus les équations d'Einstein, ma conséquence ici ne s'applique plus. Mais tant que vous avez respecté les équations d'Einstein et que vous quantifiez de cette manière-là, et que vous faites la somme quantique, vous aurez toujours des effets comme ça. Oui.
Bon, alors sur YouTube, il y a beaucoup de discussions et de questions et de personnes qui se répondent. Je ne peux absolument pas tout résumer en une minute, puisqu'on va quand même bientôt s'arrêter. Je relève par exemple une question. Pouvez-vous nous parler un peu plus des non-gaussianités et de ce qu'on peut observer permettant de voir ces univers virtuels, puisque tu as tendu la perche?
Oui, j'ai tendu la perche. Alors, évidemment, comme je ne peux pas en discuter de manière technique, voilà. Alors en général, quand on regarde le fond diffus cosmologique, on regarde des corrélations statistiques entre différents endroits. Et on regarde sur deux points en particulier. On commence avec deux points et ça donne une distribution qui est généralement donc sur deux points. Et puis quand on regarde, on peut faire la même chose avec trois points. Sur deux points, c'est ce qu'on appelle le spectre de puissance, qui est très, très bien mesuré, particulièrement dans Planck. Bon. Et puis on regarde sur trois points, c'est ce qu'on appelle le bispectre. On n'est pas très malin, des fois on invente un mot qui est le spectre de puissance. Et puis ensuite, quand on fait un peu plus, on fait le bispectre. Et je vous le donne en mille sur quatre points. C'est le trispectre. Voilà, c'était facile. Hein. Au-delà de ça, je ne crois pas qu'on dise. On dit le N. Hein ? Polyspectre. Polyspectre, oui, bien sûr, c'était logique. Voilà. Et donc, on mesure ces choses-là. Et la théorie normale, entre guillemets, qu'on fait, c'est qu'on calcule, on a une phase d'inflation. Et dans cette phase d'inflation, ou de rebond d'ailleurs, hein, ça ne change pas grand-chose, on met les perturbations initiales, on les met dans le vide. Et il se trouve que quand on les met dans le vide, ça donne une sorte de distribution gaussienne en fonction de l'échelle. Gaussienne au sens d'une distribution gaussienne, vous savez, la courbe en cloche qu'on utilise et qu'on retrouve absolument partout en statistique, quelle qu'elle soit, hein, de la sociologie à la physique théorique en passant par la cosmologie. Tout ça, c'est la même gaussienne qu'on trouve. Et il se trouve que quand on fait... Alors en fait, c'est très très simple, vous allez voir. Quand on fait plusieurs états possibles, si je prends deux univers au lieu d'un et que je les fais interférer comme ça, eh ben, le premier me fabrique un spectre gaussien, normal. Le deuxième me fabrique un spectre gaussien aussi, normal. Et quand je fais l'interférence entre les deux, eh bien, je trouve une somme de deux spectres gaussiens. Et comme chacun sait, la somme de deux gaussiennes n'est pas une gaussienne. Donc je fais naturellement apparaître des non-gaussiennités, puisque si je veux reproduire comme si c'était gaussien, ça ne l'est pas. Donc je verrai des effets. En l'espèce, je verrai des effets dans le trispectre et non pas dans le bispectre. Mais bon, ça, je n'ai pas rentré dans les détails là-dessus. Voilà.
Merci. Bon, il y a plein de questions intéressantes. Moi, j'ai l'impression de censurer là parce que je ne peux pas toutes les poser. Mais alors, voilà une autre. Est-ce qu'il y a un lien entre l'intrication quantique et la gravité ?
Est-ce qu'il y a un lien entre l'intrication quantique et la gravité ? Alors, dans tout ce que j'ai dit, non, puisque personnellement, je souhaite quantifier la gravitation. Un lien, pour ça, il faudrait avoir une théorie. Je suppose que les gens qui posent cette question ont dans l'idée les théories à la Penrose ou des choses comme ça, dans lesquelles la gravité, en fait, n'est pas vraiment quantifiée, mais elle vient de l'intrication quantique entre les objets. Il y a des choses comme ça qui existent. J'avoue que la réponse est qu'il peut y avoir un lien dans certaines théories, mais que je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas expert du domaine. J'ai lu des choses, mais...
J'ai pas réponse à tout. Hein.
Voilà. Non, je n'ai pas réponse à tout, ça, je confirme.
Alors, allez, encore deux, et on s'arrête. Vous basez votre modèle sur une cosmologie lambda CDM qui ne prédit que 5% de l'énergie. N'y a-t-il pas d'autres modèles qui s'adapteraient mieux à la cosmologie quantique ?
Très bien. Alors, je ne base absolument pas ma théorie sur lambda CDM. Je suppose effectivement que lambda CDM est le meilleur ajustement des données qui existent dans une version phénoménologique de la chose. Quant à moi, je regarde quelque chose qui n'a rien à voir. En fait, les échelles auxquelles je me situe n'ont pas de constantes cosmologiques, n'ont pas de matière noire. Ça ne se verrait pas sur ces échelles-là. C'est au moment du Big Bang, vraiment, et je remplace le Big Bang par des effets. Je lève la singularité du Big Bang par des effets quantiques. Donc, alors, personnellement, j'espère effectivement trouver un modèle qui, ayant évité la singularité, reproduise la phénoménologie de lambda CDM. Ce qui ne veut pas dire que le modèle lambda CDM soit fondamentalement correct. Mais par contre, ce qui me paraît clair, c'est que toute théorie à viser de reproduire les données doit reproduire les données. Et ces données, la meilleure manière de les reproduire, étant donné qu'elles sont compatibles avec lambda CDM, bah c'est d'essayer d'avoir un modèle qui se rapproche le plus possible de lambda CDM, au moins de manière phénoménologique.
Bien. Et dernière question. La singularité initiale du Big Bang est-elle comparable à la singularité des trous noirs ?
Alors, oui et non. Oui, au sens où c'est une singularité. Donc, mathématiquement... mathématiquement, c'est la même chose, c'est-à-dire vous calculez des objets qu'on appelle les tenseurs de courbure, tenseurs de Riemann, les invariants divers et variés, et tout ça diverge, tout ça vaut l'infini quand vous le calculez sur cette singularité. La singularité cosmologique est une singularité de genre-espace, c'est-à-dire qu'elle est là à un moment, et puis ensuite elle disparaît, évidemment, mais elle est là dans tout l'espace. Alors que la singularité à l'intérieur d'un trou noir est une singularité de genre-temps parce qu'elle est là tout le temps. Elle n'est qu'en un seul point, par contre, mais elle est là tout le temps. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Ça n'a pas les mêmes propriétés. Par contre, là encore, la gravitation quantique espère résoudre aussi et probablement de la même manière cette singularité. Donc les deux singularités sont, en résumé, techniquement, ça se ressemble un peu, il y a des nuances, et on pense, si on résout l'un, si on arrive à comprendre comment résoudre l'une des singularités, on saura résoudre la deuxième aussi. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Patrick, et rendez-vous dans un mois.
Merci.